Radio Barque, deuxième partie de notre 15e, et nous avons dit tout à l'heure que nous commencerions cette mi-temps, en quelque sorte, par
la relation entre la Glouf et la ville de Narbonne.
Voilà,
hein. Alors quand même, Jean-Claude, nous sommes presque à mi-mandat, hein, de mi-mandat, pas loin. Et je dois te l'avouer, je l'avoue aussi à nos auditeurs, le temps me semble désespérément long. Alors non seulement long, mais intellectuellement et politiquement difficile à vivre, à supporter. Tant la gestion de cette ville dans ses rapports qui sont nécessaires, quoi, hein, évident, avec l'agglo du Grand Narbonne,
incontournable,
et d'une médiocrité alors mais proprement stupéfiante. Je pensais naïvement qu'après le temps du deuil de la perte de la ville par la gauche et celui de l'agglo par la droite, mouliste, bon, la raison, l'intérêt général, que sais-je, quoi, en tout cas l'intérêt général de la seule partie qui me semble-t-il compte, hein, à savoir la communauté narbonnaise, prévaudrait, mais surtout le reste. Hein. Eh bien non, je me suis, je dois l'avouer, lourdement trompé. La raison n'a pas, visiblement, atteint les cerveaux de nos dirigeants locaux. Hein. Les dysfonctionnements et les chevauchements de compétences sur les gros dossiers et les déclarations de guerre idéologique s'empilent quasiment au quotidien. La dernière du jour, par exemple, sur le Murena, le clos de la Lombarde, la participation financière éventuelle de la ville au fonctionnement. Alors même que Didier Mouly, il y a quelques mois de cela, a dit et a voté notamment à l'agglo, hein, qu'il ne voterait pas de subvention de fonctionnement pour le musée régional. Et là, il nous dit, à la sortie d'une assemblée générale des amis du clos de la Lombarde, qu'il serait éventuellement prêt à y participer au fonctionnement si la région prenait à sa charge le clos de la Lombarde dans le cadre du Murena. Non, mais on croit tomber sur la tête. La participation au fonctionnement du Murena coûterait beaucoup plus cher que la subvention qu'il refuse aux amis du clos de la Lombarde de 150 000 euros pour faire des études de je ne sais quoi. Je veux dire, on est vraiment dans un monde complètement incohérent et irrationnel. Et alors même que sur des compétences propres de la ville, comme le financement et l'aménagement du parvis du Murena, comme sur l'aménagement et le financement du parvis du théâtre, comme sur l'aménagement et le financement du parvis de l'aspirateur, oui, comme sur l'aménagement et le financement des abords de la Robine qui conduisent du théâtre jusqu'au Murena, rien n'est dit, rien n'est pensé et rien n'est proposé. Moi, les auditeurs s'en rendent compte forcément à mon ton. Je suis particulièrement irrité par ce genre de situation, hein, comme sur la salle multimodale. Bon, pareil, hein, voilà des gros équipements structurants sur lesquels les deux collectivités doivent effectivement se prononcer de manière rationnelle, objective et lisible par les électeurs de Narbonne et du Grand Narbonne, qui sont les mêmes pour les équipements en question sur Narbonne, eh bien non, c'est la cacophonie la plus totale, dans une espèce de concurrence politique stupide, je fais, tu fais pas, bon, etc. Alors le problème, Jean-Claude, c'est que maintenant, évidemment, j'ai fait mon deuil, je sais que pendant 3 ans, on va continuer à vivre ce genre de situation tout à fait irrationnelle et politiquement absurde, donc la conclusion que j'en tire, c'est qu'effectivement, certes, je continuerai effectivement de donner mon point de vue sur toutes les initiatives qui seront prises ou pas prises en la matière, mais je commence à me poser des questions si je ne dois pas me préparer moi aussi à travers et avec d'autres à faire en sorte que pour les prochaines élections, on n'ait plus une situation politique qui est objectivement à la source de ce dysfonctionnement avec la mairie, la ville, centre, dirigée par une mairie d'opposition, à la majorité qui gouverne aujourd'hui le Grand Narbonne, qui plus est avec un président qui est lui-même conseiller minoritaire dans la ville-centre.
Voilà, mais bon, à chaque époque, chaque élection, il faudra revenir là-dessus.
Tout ça était malheureusement contenu dans la séance originelle de la mise en place de cette agglomération. Bon, tout le monde sait comment, à l'époque, j'ai soutenu Didier Mouly. Je n'ai pas ensuite souhaité participer à son groupe, hein, pressentant effectivement que cette agglomération serait préemptée, l'ensemble de ses décisions, par ce conflit narbonnais qui pénalise finalement tout le monde.
Et qui perdure.
C'est une des rares exceptions d'ailleurs, parce que la plupart des agglomérations dans notre pays une fois le choix du président fait, se gère dans le consensus.
S'en tiennent à la raison.
C'est la raison pour laquelle donc, j'ai fait mon groupe indépendant, qui a d'ailleurs été rejoint par d'autres après, et qui aujourd'hui, je pense, aura des choses à dire pour l'avenir de cette agglomération.
À propos d'élections, on va revenir tout à l'heure sur des élections plus actuelles avec vous, Michel Py. Mais un petit mot également sur un billet intitulé « César, ce revif » que tu as publié il y a quelques jours à peine, Michel.
Oui, c'est une information qui n'a pas visiblement été retenue par la presse locale. Toi qui n'a pas suffisamment fait attention en fait, à ce petit événement épistolaire, mais qui dans sa signification politique n'est pas sans intérêt, à savoir que Jean-Paul César, après en fait, l'ouverture du bal des législatives fait par le couple Mouly-Fabre, qui nous a récemment dansé un tango des plus langoureux, dans le style « Je t'aime moi aussi », en fait. Hein, et ce qui est, j'avais noté dans ma chronique, que c'était quand même un peu bizarre, en fait, hein, que Didier Mouly, à politique de droite, dise déjà, à quelques mois, en tout cas.
C'est la magie du rapprochement du tango.
Que sa candidate était Madame Favre, enfin, du Parti Socialiste, on croit rêver, quoi. Bon, enfin, passons.
Ce qui a surpris ou amusé beaucoup de monde.
Évidemment, ça
le confirme.
Évidemment, ça ne pouvait pas laisser certains membres élus adjoints de Didier Mouly totalement indifférents. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu une grande déclaration publique faite, encore qu'elle ne serait tardée peut-être, de Jean-Paul César, l'adjoint et le jeune adjoint à l'ambition politique.
Non, ça a été un simple communiqué, discret d'ailleurs.
Il a simplement obtenu de nouveau Narbonne.
Une faveur.
De nouveau Narbonne.
Une faveur.
Sur son site, la publication d'une analyse du premier tour des primaires, dans laquelle il se paye, passez-moi l'expression, Marilène Fabre, de manière particulièrement virile, dans le style « Toi, Mouly, tu la soutiens et tu l'aides. Tu m'empêches ou tu empêches tes élus de s'exprimer politiquement alors que toi, tu te permets de le faire quand tu le veux et quand tu veux. Eh bien, moi, j'ai décidé maintenant d'en faire autant. » Et puis, pam, prends ça dans les dents. Alors, le plus drôle, c'est que dans le communiqué en question de Nouveau-Narbonne, il y a un petit chapeau de Nouveau-Narbonne, justement, fort ambigu et très embarrassé, du censeur de la maison, qui dit « Voilà, je nous publie ça de manière officielle sur notre site officiellement, mais c'est pas tout à fait dans l'esprit, mais compte tenu du fait que nous connaissons les valeurs de César, on peut le laisser passer, donc on le passe. »
C'est ce qu'on appelle publier du bout des lèvres,
C'est pas la langue de bois, c'est carrément la langue de béton armé, n'importe quoi. En tout cas, force de constater que ça commence à tanguer sérieusement dans l'équipe de Didier Mouly, après la démission de Mme Granier, maintenant, M. César qui se rebiffe, je fais le pari que dans les semaines qui viennent, cette expression publique-là sera encore un peu plus affirmée.
Bien, eh bien, on le verra. Rappelons quand même que jusque-là, M. César fait partie de ceux qui ont eu un traitement spécial parmi les conseillers municipaux quant à son comportement politique, qui va à l'encontre de la base Nouveau-Narbonne depuis fort longtemps, qui a valu à certains, je dis bien fort longtemps, qui a valu à certains des sanctions et pas à d'autres.
Oui, non, mais quand même, Jean-Claude.
C'est-à-dire deux poids, deux mesures. Il en a profité.
L'ouverture du bal tragique fait à Narbonne, c'est quand même Mouly lui-même qui l'a faite. Quand même. Que cet homme dise « Je ne veux pas de Michel Py comme député », parce que c'est ça le message. Il
bien
est là, à notre droite.
Mais par contre,
je verrais bien Madame Fabre. C'est quand même... je n'ai jamais entendu son père, Hubert Mouly, dire aussi clairement la même chose en faveur des candidats aux législatives.
Je crois que c'est la première fois en 45 ans qu'effectivement... 45 ans d'existence, qu'un leader de Nouveau-Narbonne apporte son soutien à un cacique du Parti Socialiste. Je ne veux pas épiloguer davantage là-dessus. Hein. Et comme l'aurait dit Jacques Chirac, ça m'en touche une, ça fait bouger l'autre. Vu le nombre de messages, je crois que j'ai reçu après cet incident, je pense que cette déclaration finira par nuire davantage à son auteur qu'à moi-même. Je tempérerai quand même les propos de Jean-Claude sur l'engagement à politique de Nouveau-Narbonne, puisque moi j'étais lycéen au lycée Lacroix en 1988, et je me souviens très bien qu'à cette époque-là, Anne Madal, premier adjoint du Béamoli, animait la campagne dans une permanence en faveur de Jacques Chirac, quand Léon Pujot animait la même campagne en faveur, lui, de Raymond Barre. Et ça se trouvait pas très loin du Chanteclerc, dans une rue devant laquelle on passait tous les jours, là, pour aller prendre le café en ville. Donc, des engagements, il y en a eu, même s'ils étaient non municipaux et en dehors du cadre de Nouveau-Narbonne. Jean-Paul César, lui, a rappelé finalement le béaba de la politique narbonnaise depuis ses 45 ans. Il y aura une liste Nouveau-Narbonne candidate à sa succession en 2020 au municipal. Et bien évidemment, elle aura Marie-Hélène Fabre en face, quelle que soit la situation par ailleurs. Tout cela aura finalement été un soutien pour hier. Et il a fait preuve de lucidité en rappelant ces quelques éléments qui sont des constantes de la vie politique narbonnaise.
Ouais. On marque une seconde pause, après quoi nous consacrons cette troisième partie. Alors nous continuons, puisque nous avons commencé, à interviewer Michel Py.